Thank you.
Merci. Du point de vue du FIAN, le fait que cette déclaration reconnaisse le caractère collectif de plusieurs des droits qui figurent dans la déclaration est particulièrement important. Et je dirais même que c'est l'un des points essentiels de cette déclaration. Comme cela a été dit tout au long de la semaine, dans nombre des déclarations et dans nombre des témoignages, en particulier dans les déclarations qui ont été faites par les paysans, les pêcheurs et d'autres représentants de personnes vivant dans les zones rurales, la réalité de la vie des paysans dans les zones rurales se fonde sur des pratiques communautaires et des relations communautaires. Il y a de nombreux exemples qui ont été cités, par exemple la gestion collective des ressources naturelles ou le développement et la conservation des savoirs traditionnels. Et je pense, nous pensons, qu'il est clair que tout obstacle aux droits de l'homme de ces groupes les touche dans leur ensemble et ne touche pas des individus isolés dans la communauté. Je songe par exemple aux déplacements forcés qui touchent la communauté tout entière et pas seulement, dans la plupart des cas, juste un membre de la communauté. Cela touche toute la communauté dans son ensemble. C'est encore une raison pour laquelle les droits collectifs ainsi que la jouissance collective des droits exigent une protection spécifique. Dans notre déclaration générale au début de la semaine, nous avions également souligné qu'il n'était pas inhabituel dans le système juridique de plusieurs États qui participent à ces négociations de reconnaître des droits collectif ou le caractère collectif des droits. Par exemple, si vous examinez la constitution ou le cadre juridique de nombreux pays, vous constaterez que les États, bien souvent, octroient des droits à différents groupes, par exemple les groupes de population autochtones, à des minorités et à d'autres groupes, voire par exemple aux paysans. Ce sont des considérations qui se fondent sur ce que j'ai dit auparavant. Et c'est quelque chose qui n'a rien de surprenant, qui peut être expliqué d'ailleurs par les conditions économiques que partagent les personnes qui vivent et qui travaillent dans les zones rurales. Et là encore, des exemples en ont été donnés. Nous avons entendu maints exemples en la matière tout au long de la semaine. Il y a des dispositions qui prévoient le caractère, qui reconnaissent, pardon, le caractère collectif des droits, aussi bien dans la Constitution que dans le cadre législatif de plusieurs États. Et j'avais cité quelques exemples dans ma déclaration générale lundi. Par exemple, la République démocratique du Congo, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Soudan du Sud, la Bolivie, l'Équateur, le Mexique, le Cambodge, l'Inde, l'Italie, le Portugal. Comme vous pouvez le constater, cela ne concerne pas juste une région du monde. Ce sont des exemples que nous pouvons trouver partout dans le monde. Au-delà de cela, il y a également la législation nationale. Il est important de rappeler que dans la législation relative aux droits de l'homme, bien souvent, les droits collectifs ou la jouissance collective des droits sont reconnus. Je pourrais citer par exemple la Déclaration des droits des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et puis, il y a également la jurisprudence des organes conventionnels, qui nous offre plusieurs références aux droits collectifs. Je citerai juste deux exemples. L'observation générale numéro 21 du Comité des droits économiques et culturels sur le droit de participer à la vie culturelle et également le commentaire général sur le droit à la santé présenté par le même comité. Je saisis cette occasion pour souligner que la protection des droits collectifs et de la jouissance collective des droits n'entre pas en contradiction avec la jouissance individuelle des droits. Au contraire, ces droits sont complémentaires. Et comme cela a été souligné également par certains des organes conventionnels, la jouissance des droits de l'homme est bien souvent impossible s'il n'y a pas de jouissance collective des droits. Donc je crois qu'il existe un lien intrinsèque entre jouissance individuelle et jouissance collective des droits de l'homme. Je crois que les dispositions de la présente déclaration cherchent à faire en sorte que la reconnaissance des droits collectifs n'entre en aucune façon en contradiction avec la jouissance des droits individuels. J'aimerais également vous renvoyer à un commentaire parce que, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous sommes en train de discuter plus particulièrement des droits collectifs. Et j'ai entendu une observation selon laquelle cette déclaration risquait de créer de nouveaux droits. Et franchement, j'aimerais savoir si cela s'applique spécifiquement à la question des droits collectifs ou s'il s'agit d'une observation d'ordre général vis-à-vis de la déclaration. Parce que s'il s'agit des droits collectifs, il serait intéressant de mieux comprendre en quoi les droits collectifs pourraient être liés à de nouveaux droits. Merci.